I am the sky. Who are you? Hey, Polaris. My name is Chris. Who are you that I should be mindful of?
Computer.
You win every year.
X-29.
You know him. You know her. Antonia. Chicky, chicky, chick.
You win.
He's got very legalized collie. Skin, skin, skin. He's got very legalized ganja. Check.
You win.
Check a check.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur l'antenne de Radio Libertaire pour une nouvelle édition d'Il y a de la fumée dans le poste. Et oui, c'est l'émission créée par le CIRC, le collectif d'information et de recherche cannabique, qui redémarre comme c'est l'habitude un dimanche sur deux de 18h30 à 20h30 en direct en général sur la plus rebelle des radios. J'ai nommé Radio Libertaire, la voix sans dieu, sans maître, ni publicité de la Fédération Anarchiste. Vous pouvez nous écouter soit pour le direct, soit via la bande FM 89.4 MHz, soit l'internet www.radio-libertaire.net, le site de Radio Libertaire où vous pourrez également consulter la présentation des programmes de Radio Libertaire, son agenda et surtout sa grille de téléchargement libre et gratuit pour pouvoir écouter dans les conditions et quand vous le souhaitez, les conditions que vous voulez et quand vous le souhaitez, n'importe lequel des programmes qu'aura été diffusé à l'antenne de la plus rebelle des radios, Radio Libertaire. Tel par exemple, il y a de la fumée dans le poste ce dimanche. Nous sommes le premier dimanche et le premier jour du mois de décembre 2024. Nous sommes en direct, comme d'habitude, d'avoue, en régie Jacques Perdereau et moi-même Max. au micro du studio Louise Michel de Radio Libertaire. Salut à tous, salut à toi Davo.
Et bonsoir Max, bonsoir à toutes et à tous.
Salut à toutes également, effectivement. Content de vous retrouver pour ce direct. Donc comme je l'ai déjà dit, on est ensemble jusqu'à 20h30 pour vous raconter l'actualité des drogues en général et plus particulièrement celle du cannabis, puisque c'est la drogue, ou plutôt le stupéfiant de prédilection de l'association anti-prohibition du cannabis, association d'activistes écolo-libertaires qui avait fondé, donc il y a de la fumée dans le poste dans les années 90, et nous continuons, nous perpétuons leurs œuvres radiophoniques un dimanche sur deux, Davo et moi-même, ce dimanche 1er décembre 2024. Donc on va faire un tour de l'actualité assez classique, avec d'abord un tour, on commence en général par la France, et avec les violences, un peu plus calme cette quinzaine, mais quand même un petit tour dans l'heure, avec un mort par balle le week-end dernier, et la police et la politique du ministère de l'Intérieur, et tout ça, c'est de ça dont on va parler, puisque quand il est question de politique des drogues, et là je dis bien des drogues, parce que c'est ça le cadre général dont dépend tout ce genre de choses, ce genre d'affaires. À la française, il est question, quand on parle des drogues illégales, les stupéfiants, de répression et de répression. Donc on va, très rapidement, rassurez-vous, aller faire un petit tour du côté de la Cour des comptes, qui a rendu un rapport très très négatif sur justement la politique anti-stupéfiants menée par la France. Alors c'était lors d'un mandat précédent, c'est pas la nouvelle menée par le nouveau gouvernement, tellement il est jeune que c'est pas encore possible de l'évaluer, et tellement il va pas durer que de toute façon il nous fera l'effet d'un paix sur une toile cirée. Donc bon, c'est pas du gouvernement actuel ni des œuvres de Bruno Retailleau dont on parle abondamment depuis 3 ou 4 éditions d'Il y a de la fumée dans le poste dont il va être question là. La Cour des comptes s'en prend à la politique anti-stup de Christophe Castaner. Donc ça remonte à quand même un petit moment, mais comme le dit l'article lui-même, je reprends le mot, cette politique se retrouve étriée par la Cour des comptes. Tiens, c'est curieux. Ah, on en est les premiers surpris ici, vous en doutez bien. Et puis enfin, toujours dans le dossier police, violence, répression, machin, tout ça, l'audition devant le Sénat du nouveau chef, du nouveau directeur général de la police nationale, qui lui salue l'action gouvernementale et étatique en matière de politique des drogues, bien évidemment. Donc on n'en touchera vraiment que deux mots très rapides pour être à peu près complet sur ce dossier. Ensuite, on reviendra un petit peu sur un truc qu'on avait pris le temps de bien détailler il y a 2 semaines, c'est que dans cette espèce de climat très sévère, pour ne pas dire hyper démagogique, en matière de politique des drogues toujours, et notamment de trafic de stupes et de cannabis, sévissant actuellement en France, on vous avait lu ou abordé plusieurs voix contradictoires qui s'était fait entendre ces derniers temps. On en a une de plus, une voix contradictoire cette quinzaine, puis celle-là, c'est une voix militante, proche de nos associations qu'on représente ici, auxquelles on a pu ou on peut encore participer dans le monde anti-prohibitionniste, pour celles et ceux qui militent depuis longtemps d'ailleurs, en l'occurrence, pour une autre politique des drogues en France, c'est Bertrand Lebeau. Bertrand Lebeau, les Bovici, pour son nom complet, pionnier de la réduction des risques, médecin addictologue, qui a œuvré dans les années 90 lui-même courageusement pour faire aborder par l'État français une autre orientation de la politique à destination des personnes usagères de drogue dure à l'époque essentiellement. Donc il a pris la plume, il s'est fendu d'une tribune qui a été publiée par le Nouvel Obs. Je l'aborderai sans la lire in extenso celle-ci, mais il y a plusieurs passages qui sont particulièrement pertinents que je vous citerai tout à l'heure. Et toujours dans le monde médical, mais cette fois-ci dans le feuilleton du cannabis médical et de la réforme qui était promise par le pouvoir exécutif français il y a encore quelques temps, qui finalement est en train de sombrer complètement à la faveur de cette espèce de série à multi-rebondissements pathétique, que nous propose l'Assemblée nationale et le Sénat français en ce moment, sous l'égide donc de ce inénarrable gouvernement gouvernement assez nouvellement nommé encore en France. Cette expérimentation médicale, on sait qu'elle a plus que du plomb dans l'aile, mais il y a quand même une nouvelle initiative pour essayer d'en sauver les derniers meubles possibles qui vient de voir le jour. Je l'aborderai, je la critiquerai même un petit peu. Ça s'appelle Cannabis Santé. On vous donnera les billes, en tout cas, pour vous informer et vous faire un avis concret sur cette énième initiative qui risque de... Bah, vu dans le bordel institutionnel actuel qui risque de servir encore une fois à rien, hein, rassurez-vous, elle est plombée, donc elle était promise, mais finalement elle n'aura pas lieu, cette légalisation du cannabis médical, en France, promise initialement pour 2025. C'est déjà foutu, on en est à peu près convaincu ici. Voilà pour la page un peu médicale de tout ça. Après, tiens, on ira aborder un sujet récurrent. Il y a de la fumée dans le poste depuis des années et des années. Un sujet qui nous tient à cœur, à Davou et moi-même, qu'on n'avait pas abordé depuis un petit moment. Donc c'est bien d'en parler. C'est les salles de consommation à moindre risque ou les haltes soins addiction, suivant la nouvelle dénomination. En tout cas, pas les salles de shoot, avec ou sans guillemets, même si on vous donnera à travers la presse plus généraliste forcément cette dénomination-là, avec ou sans guillemets. On va en reparler à travers plusieurs petites choses, pas n'importe lesquelles quand même. Hein. D'abord, le populisme ambiant autour de la question des salles de consommation à moindre risque, qui met du plomb dans l'aile des associations qui œuvrent en matière de réduction des risques et de prévention à destination des populations qui souffrent le plus d'usage de stupéfiants. Avec Incarud, une association donc de réduction des risques, qui se voit empêchée de déployer son action dans la ville de Bordeaux. Tout ça à cause donc de la mauvaise réputation de ce que la presse qui prend pas de pincettes appelle des salles de shoot. Je détaillerai pas tout ça parce que c'est vraiment pénible, mais c'est quand même intéressant pour montrer à quel point le niveau de grossièreté intellectuelle de l'opposition à ces salles de consommation à moindre risque peut nuire à l'action de prévention et de réduction des risques sur le terrain des toxicomanies, au-delà des salles de consommation. Hein. C'est vraiment complètement dingue. Ça sent bon la France de 2024. Effectivement, ça va être une merveille. Heureusement, il y a des institutions qui, elles, ont fait leur boulot, qui avaient été commandées d'un rapport concernant justement ces salles de consommation à moindre risque ou halte addiction. C'est l'INGAS et l'IGA, l'Inspection Générale de l'Administration et des Affaires Sociales, qui viennent de publier un rapport largement favorable à la pérennisation et à la multiplication de ces salles de consommation à moindre risque. Donc ça, c'est très très bien. Ça me donnera l'occasion aussi de vous redire une nouvelle fois, de lire la BD consacrée à ce sujet, à moindre risque, immersion en salle de shoot, en salle de consommation, qu'on doit à Matlette, éditeur La Boîte à Bulles, associé à Médecins du Monde. Et enfin, on ira faire notre page internationale, comme c'est un peu l'habitude, on la garde pour la fin, elle n'est pas très développée, donc j'espère que pour une fois, je ne vous la ferai pas trop de façon lapidaire, comme ça m'arrive beaucoup trop souvent. Deux destinations aujourd'hui, le Luxembourg, pour la mauvaise nouvelle, le Luxembourg qui restreint sa politique d'acceptation des usages médicaux du cannabis après avoir pris nettement la légalisation des différents usages du cannabis au Luxembourg ces dernières années, hein, que ce soit l'usage médical ou l'usage récréatif, c'est-à-dire pour le plaisir. Il y a une espèce de marche arrière qui semble être enclenchée du côté des autorités luxembourgeoises concernant la délivrance de produits pharmaceutiques à base de cannabis. Oui, certains ou certaines ont déjà dû comprendre où je voulais en venir. Ça rappelle l'exemple français avec l'exclusion des fleurs séchées de la pharmacopée luxembourgeoise, semble-t-il. C'est vers ça qu'on s'amène. Pour la bonne nouvelle, la seconde destination, ça sera la République tchèque. Hein, notre destination favorite pour être le prochain pays de la communauté européenne à légaliser le cannabis. On y est presque. Avec la bonne nouvelle de cette édition de Il y a de la fumée dans le poste de ce 1er décembre 2024 en provenance de République tchèque, c'est pas encore une vraie légalisation globale à laquelle on va assister en République tchèque, mais quand même là, on a des modifications de la loi et du code pénal tchèque qui ouvrent nettement la voie, qui allège très nettement, en tout cas, les sanctions prévues pour possession ou autoproduction de cannabis en Tchéquie. Et donc, c'est quand même un grand premier pas qu'on va saluer aujourd'hui. De la part départ de ce pays, de cette nation, de la communauté européenne vers la légalisation du cannabis. Ça sera en toute fin d'émission que je détaillerai un petit peu ce qui est en train de se passer en République tchèque. Je le répète, c'est la bonne nouvelle de la quinzaine. Il faut donc aller à l'autre extrémité de la communauté européenne pour pouvoir le trouver. C'est encore pas en France, ce 1er décembre 2024, qu'on pourra vous trouver des bonnes nouvelles de ce gabarit-là, ou même se réjouir un tant soit peu d'une orientation, un tant soit peu elle aussi, un peu plus humaine, un petit peu plus pragmatique, un petit peu plus forcément efficace face à l'échec énorme que représente la prohibition des différents stupéfiants, et notamment le plus populaire d'entre eux, le cannabis, à la sauce française, à une catastrophe politique, économique, sécuritaire, sociale. Enfin voilà, c'est une fois de plus, il y a de la fumée dans le poste qui débute sur Radio Libertaire, et c'est encore une fois de ça qu'on va vous parler. Croyez-moi bien que ça me réjouit pas. C'est donc pour ça que je vous ai préparé une fois de plus amoureusement une sélection musical aujourd'hui que j'espère suffisamment amène de nous détendre un petit peu, tout ça, de nous faire un peu de bien. On va partir dans différentes directions aujourd'hui, mais avec quand même non pas un groupe, mais des amis de l'émission qui vont être en fil rouge aujourd'hui. En ce moment, je suis un peu débordé, enfin j'ai un peu de mal à suivre l'actualité, qu'elle soit cannabique, politique ou musicale ou tout ça, et donc je suis en retard, alors que on a des amis de Il y a de la fumée dans le poste, des amis aussi de notre cause que nous défendons à l'antenne de Radio Libertaire, à savoir l'anti-prohibition du cannabis en France, la lutte pour la légalisation du cannabis en France. C'est le groupe Lofofora qui vient de sortir un album, là il y a déjà presque 2 mois, il est grand temps que je vous annonce ça, et que je vous en dise un petit peu plus. Et pour l'instant, c'est pas Lofofora qu'on va aborder. C'est l'autre groupe dans lequel on trouve le chanteur de Lofofora, Renaud, qui nous avait fait, avec Phil, le bassiste historique de Lofofora, l'amitié de venir nous parler de Lofofora il y a déjà quelques années dans Il y a de la fumée dans le poste. Et ben, l'autre groupe, c'est pas avec des guitares aussi sévères pour certaines oreilles que Lofofora, c'est avec des guitares aussi, mais aussi beaucoup d'orgue et tout ça. En fait, c'est du rhythm and blues très chaleureux, très chouette. On vous avait déjà proposé de rencontrer et de découvrir ce groupe il y a quelques années, c'était en 2018 à l'occasion de, c'était même dans l'émission du 25 novembre 2018 qu'on était parti à la découverte de ce groupe, Madame Robert, qui sortait à l'époque son premier album qui s'appelait Comme De Niro si j'ai bonne mémoire, et ben Vlatipak Madame Robert, et je suis passé à côté de ça, mille excuses aux copains et copines de Madame Robert, je suis vraiment désolé, j'ai au mois de septembre j'étais vraiment accaparé par d'autres problèmes. Et donc je suis passé à côté de la sortie du deuxième album de Madame Robert, et c'est bien dommage parce qu'il est très chouette, vraiment, je me le suis procuré récemment et il est super, il s'appelle C'est pas Blanche-Neige ni Cendrillon, ce deuxième album signé Madame Robert, et je vous propose tout de suite l'écoute du premier morceau. Ça tombe bien parce qu'il nous concerne un petit peu si vous ouvrez bien l'oreille dans les refrains que va vous chanter Renaud, le chanteur de Madame Robert et de Lofofora, dans ce Chez Madame Robert, signé Madame Robert, extrait du nouvel album de Madame Robert, sur Radio Libertaire dans Il y a de la fumée dans le poste.
Chaque semaine dans ta boîte, tout le monde attend le vendredi. Le mec de la compta emmène sa meuf en dans mon lit. Pour toi, c'est pas gagné vu que t'as déjà plus un radis. Pendant que la ville entière semble tourner au ralenti, ouais, tu rêves de faire la fête et de danser jusqu'à lundi. Je connais une adresse qui va te plaire, qu'est-ce que t'en dis? Viens donc chez Madame Robert, laisse ton cafard au paillasson.
Laisse ton cafard au paillasson.
Tu verras Madame Robert, c'est pas Blanche-Neige ni Cendrillon.
C'est pas Blanche-Neige ni Cendrillon.
Crois-moi, chez Madame Robert, on rigole, on fume le gazon. À peine poussé la porte en verre,
artiste. Elle est comme une maman tenancière et physionomiste. Si quelqu'un joue au con, pas besoin d'appeler la police. C'est aussi la patronne qui te remet l'aplomb. L'office ne va pas essayer, car ceux qui insistent ont bâti, c'est les filles. Ils sont tranquilles, y'a pas de relou sur la piste. Oh non.
Oui, c'était Madame Robert sur Radio Libertaire qui vous chantait chez Madame Robert, extrait de leur nouvel album. C'est leur second pour l'instant. Il s'appelle C'est pas Blanche-Neige ni Cendrillon. Et bah, ça tombe très bien parce que ici aussi, il y a du gazon dans le poste sur Radio Libertaire. Hein. C'est sorti chez Atome il y a quelques mois. Ce deuxième album de Madame Robert, vivement recommandé par Il y a de la fumée dans le poste, un groupe de rhythm and blues. Comme vous l'avez entendu, hyper chaleureux, très très bien écrit et interprété. Et un groupe on ne peut plus sympa, Madame Robert. Pour ceux et celles qui ont les oreilles pas trop sensibles, on retrouvera Renaud, le chanteur de Madame Robert, en fin d'émission pour vous parler du nouveau Lofofora. Mais pour l'instant, on parle de l'actualité des drogues en général, et plus particulièrement celle du cannabis, et comme en début d'émission, c'est un peu la coutume, on s'attarde sur ce qui fâche, plutôt les violences et la politique de répression, la politique uniquement basée sur la répression et la stigmatisation des usagers, encore plus développée par l'actuel gouvernement. C'est nettement moins réjouissant. Donc on y va, avec d'abord les violences sur fond de trafic de stupes, une quinzaine un petit peu moins mortifères hein, quand même que ce qu'on vit depuis des semaines et des semaines, notamment du côté de Marseille. Alors c'est pas à Marseille que je vous emmène, c'est en Normandie, c'est France 3 Normandie qui a publié un article le week-end dernier sous la plume de Maxime Fourier, intitulé « À Pont-Audebert, un homme de 33 ans tué par balle sur fond de trafic de drogueux ». Bon, tout est dans le titre, mais je vous donne quand même quelques détails pour vous préciser que ça s'est passé donc dans la commune qui s'appelle Pont-Audebert, elle se trouve dans l'Eure. Ça s'est passé dans la nuit du vendredi 22 au samedi 23 novembre, c'est-à-dire le début du week-end dernier. Donc les premiers éléments de l'enquête au moment de la publication de l'article que j'ai sous les yeux évoquent le fait que la victime était passagère d'un véhicule, d'une voiture, et qu'un nombre indéterminé d'assaillants a tiré sur ce véhicule. Le chauffeur, lui, n'a pas été blessé. Il est parvenu à rejoindre une caserne de pompiers, mais son passager, lui, était mort sur place. Il n'a pas pu être réanimé par les services qui lui sont venus, qui sont venus à son secours. Bref, une source judiciaire précise à France 3 Normandie que ces deux hommes sont très défavorablement connus de la justice, et donc on conclut à un règlement de compte sur fond de trafic de stupes, un de plus. Et deux enquêtes ont été ouvertes. C'est le parquet d'Evreux qui a commandité tout ça. Elle a ouvert une enquête pour meurtre en bande organisée et aussi pour tentative de meurtre en bande organisée, en saisissant la section de recherche de la gendarmerie de Rouen en collaboration avec celle de Pont-Audebert, la commune où s'est déroulé les faits. Voilà pour les violences de la quinzaine. Nous on vous le dit souvent ces derniers temps, quand on voit la multiplication des violences, quand on voit aussi certains autres aspects de ces violences, à savoir la multiplication des victimes collatérales de ces violences, le fait aussi que les personnes impliquées, d'un côté ou l'autre des rafales d'armes automatiques, côté tireur ou côté victime, des personnes de plus en plus jeunes également, ça ce sont des symptômes qui nous montrent que si ce phénomène n'est pas pas récent du tout. Il s'est accentué dans sa violence et que la mafia a prospéré et a pu donc gangréner encore un petit peu plus la vie des quartiers où elle sévit. Donc ça n'a pas échappé quand même à certaines de nos institutions. Ça, cette fois-ci, c'est un journal qui s'appelle L'Indépendant, qu'on trouve sur internet à l'adresse l'indépendant en un seul mot, l'indépendant.fr. Un article publié le 27 novembre cette semaine écrit par Loïse Zouz. Ça s'appelle Narcotrafic 2. Après un premier plan de lutte anti-stupéfiant inadapté, ce terme est entre guillemets, la Cour des comptes appelle à un pilotage, à nouveau entre guillemets, plus resserré. Bon, alors le titre est sympa parce que quand on rentre dans le cœur de l'article, on voit que les mots qu'ont choisis les sages de la Cour du compte vont quand même un petit peu plus loin que c'est inadapté et il faut resserrer tout ça. Hein. Puisqu'on nous parle dès l'introduction de l'article d'un coup dur pour la lutte anti-stup et on nous met tout de suite dans la balance le célèbre maintenant Bruno Retailleau, actuel ministre de l'Intérieur, qui, on va pas vous re-raconter tout ce qu'on vous a raconté depuis un mois et demi, mais n'en peut plus de ses déclarations tonitruantes contre le trafic de stup, et il en a fait un de ses chevaux de bataille, et même on disait il a déclaré la guerre et tout, enfin bref, comme d'hab, mais en pire. Oui, hein, ils le mettent tout de suite en jeu dans leur article. En tout cas, Loïse Zouz, le journaliste qui a rédigé cet article, ça ne lui a pas échappé, cet aspect-là des choses, comme nous, ça ne nous échappe pas non plus. Cette contradiction, donc, entre ce rapport qui vient de la Cour des comptes, il a été publié mercredi dernier, le 27 novembre, et je reprends les mots du journaliste, il étrille le plan anti-stupéfiant lancé en septembre 2019 par Christophe Castaner. Je lis la phrase suivante. Dressant un bilan plutôt négatif, les sages de la Cour des comptes constatent que, et c'est entre guillemets, certaines mesures phares du plan ne sont pas encore complètement mises en œuvre. Fin de citation. Il est rajouté ensuite que 5 ans après son lancement, le plan national anti-stupéfiant présente des résultats mitigés. C'est à nouveau entre guillemets, concluent les sages de la Cour des comptes. Bon, bref, ce rapport, c'est un état des lieux qui fait 90 pages. Et il est un peu résumé dans cet article de l'Indépendant. Hein. Moi, je ne vais pas redétailler tout ça, vous pouvez le faire vous-même si vous avez l'internet, c'est gratuit en ligne sur le site l'indépendant.fr. Je vous résume vite fait tout ça. D'abord, il s'intéresse aux statistiques du cannabis en rappelant qu'il y a 18 millions d'expérimentateurs, hein, rien que ça, 18 millions, ce sont leurs statistiques à eux, hein, sont pas forcément toujours les mêmes suivant les agences qui les donnent, mais bon, c'est à peu près ça. 1,3 million d'usagers de cannabis réguliers, hein, c'est-à-dire les quotidiens presque, hein, là. 1 million de quotidiens, 1,3 million réguliers, 18 millions d'expérimentateurs expérimentateur annuel, ouais, ça paraît pas mal, on est assez d'accord avec ces statistiques. C'est énorme, effectivement. Ça, on est aussi d'accord. Donc ça reste... Alors, le journal dit que le cannabis demeure en 2023 la drogue la plus consommée en France, c'est faux. La drogue la plus consommée en France, c'est le tabac. Ensuite, c'est l'alcool. Le cannabis vient en troisième position, c'est donc le stupéfiant, la drogue illégale le plus consommée en France. Habituelle petite précision qu'il faut faire puisque le journaliste, lui, n'a toujours pas eu l'intelligence de se renseigner sur le vocabulaire adéquat à employer quand on dit ce genre de choses. Bref, je passe. Ensuite, les sages nous parlent de la consommation de coke. Alors, cela aussi, les stats sont faramineuse puisqu'on nous parle d'un volume triplé entre 2005 et 2023. Quoi. La quantité de coke sniffée annuellement par les Françaises et Français a triplé entre 2005 et 2023. Elle est passée de près de 9 tonnes par an en 2005 donc à 26 tonnes en 2023. Donc on dit bravo la politique des drogues en France. Chapeau bas, messieurs, dames. Effectivement, une efficacité tout aussi épatante que quand il est question du cannabis. Bon, les sages précisent que ce plan annonçait 55 actions qui devaient toucher 25 services ou différents services ou directions de l'État français. Et ils disent, c'est entre guillemets dans l'article, que ainsi, si les points de deal font désormais l'objet d'une cartographie régulièrement mise à jour, leur nombre s'est stabilisé depuis 3 ans, après une décrue initiale de 25%. Fin de citation. Oui, on s'en souvient, hein, Darmanin s'était pas fait prier pour nous vanter la décrue de 25% au début de cette nouvelle stratégie d'inventaire régulier des points de deal. Ça, c'était il y a 3 ans, effectivement, on s'en souvient très bien, on vous avait raconté tout ça. Par contre, on apprend que ça a pas bougé, hein, cette statistique, depuis ces 3 ans qui se sont écoulés. Ce qui, si on extrapole un tout petit peu à ce que disent les gens de la Cour des comptes, ça veut dire que les opérations Place Nette, par exemple, qui sont nées entre-temps, hein, pendant ces ces 3 ans qui viennent de s'écouler n'ont pas d'impact sur le nombre de points de deal dénombrés par les autorités en France depuis 3 ans. Hein. C'est ce qui est écrit apparemment. Il rajoute que la lutte contre le blanchiment issu des trafics de stupéfiants reste insuffisamment développée, etc. etc. Enfin bref, je vous rappelle le terme qu'avait choisi le journaliste, la politique anti-stupéfiants française de l'époque, donc initiée en 2019 par Christophe Castaner, est étrillée par ce rapport de la Cour des comptes. Par contre, quand on parle de l'actuel gouvernement, apparemment le ton change un petit poil. Ce sont les derniers paragraphes de l'article qui nous tendent à le penser, puisque on peut voir que quand il est question des annonces du nouveau plan anti-stupéfiant, donc promis par Bruno Retailleau, on vous en a déjà parlé et on va en reparler encore, cette même Cour des comptes salue, on ouvre les guillemets, la prise de conscience d'une nécessaire adaptation du dispositif répressif à l'évolution de drogue. Fin de citation, à noter qu'il y a un S à drogue. Mais, on rouvre les guillemets, face à la gravité de la menace que représente la croissance du narcotrafic, fin de première citation, le rapport souligne que ce nouveau plan, et c'est à nouveau entre guillemets, nécessitera un pilotage plus resserré. Autrement dit, le nouveau plan anti-stup promis par Retailleau ne suffira pas à lui tout seul à changer grand-chose de la situation désastreuse à laquelle on assiste ces dernières années. Voilà pour ce rapport de la Cour des comptes sur la politique anti-drogue. Alors c'est pas le gouvernement actuel, hein, c'est pas les Républicains, c'est plutôt l'équipe macroniste de il y a quelques années qui est évaluée par ce rapport de la Cour des comptes. Mais vu que le nouveau gouvernement reprend exactement les mêmes, ça on l'a traité en détail il y a 2 semaines. Hein, on n'y revient pas. Allez sur le blog de l'émission, lafumedanleposte.blogspot.com, si vous voulez un petit peu plus de matière à ce sujet précis, mais le nouveau plan anti-stupéfiant qui n'apporte pas grand-chose à tout ce qui a pu être déjà annoncé, promis ou mis en place par l'ensemble des ministres de l'Intérieur précédents, Bruno Retailleau, au moins 7 ou 8 derniers gouvernements, et encore. Je remonte pas très loin en disant ça. Bref, allez, un dernier point dans ce volet-là, il y a de la fumée dans le poste de ce soir, pas très intéressant, encore moins intéressant, c'est pour ça que celui-là je vais vous le faire de manière lapidaire. Si ça vous intéresse, je vous donne les renseignements, c'est un site internet institutionnel, donc c'est gratos en ligne, sans même subir d'agression publicitaire, peut-être à la rigueur, on vous posera la question d'un cookie que vous pouvez refuser, vous pourrez quand même lire l'article sans problème, c'est Public Sénat qui l'a publié, donc sur son site publicsénat.fr, c'est daté du 20 novembre dernier, c'est sous la plume d'Henri Clavier et ça s'appelle Narcotrafic 2. Face à un, entre guillemets, marché des stupéfiants en expansion, le directeur général de la police nationale formule des pistes pour lutter contre le crime organisé. Tout ça pour faire connaissance donc avec monsieur le nouveau directeur général de la police nationale, il s'appelle Louis Laugier, et donc pour pouvoir vous dire, il y a de la fumée dans le poste ce soir, que à la lumière de cette audition devant la commission des lois du Sénat, hein, c'est ce que nous raconte donc cet article de Public Sénat, de ce nouveau directeur général de la PN, la police nationale, que rien ne va changer, hein, puisqu'il est exactement sur la même longueur d'onde que ses prédécesseurs, que les gouvernements précédents, que les ministres de l'Intérieur de qui il dépend, quoi, son ministère de tutelle, quoi, à ce brave directeur général de la police nationale, puisque son audition est une petite un petit cas d'école de bon élève, hein, de parfait bon élève. Davou, tu vas peut-être nuancer un peu mon propos. Laisse-moi juste finir avant, alors ça ne t'ennuie pas. Donc je précise à nos auditeurs et tristes que ça s'est passé il y a peu là, devant la commission des lois du Sénat, une audition donc de ce monsieur Louis Laugier qui relevait essentiellement de la proposition de loi relative au narcotrafic là que j'évoquais juste précédemment, qui va être examiné à partir du mois de janvier prochain par ce même Sénat. Et donc le nouveau directeur général de la police décrit lui aussi un phénomène qui est largement en hausse, hein, et il décrit donc entre guillemets dans l'article un marché des stupéfiants en expansion, une forte demande des consommateurs et une offre abondante. Il évoque un certain nombre d'évolutions comme la multiplication des violences liées au trafic, y compris dans des villes de moindre importance. Il il évoque lui aussi, comme je l'ai fait tout à l'heure, le rajeunissement des acteurs. Tout ça n'est pas entre guillemets dans l'article. La citation suivante nous dit, entre guillemets, « Je souhaiterais préciser, ça c'est intéressant, je souhaiterais préciser que la France n'est pas dans une situation singulière. En effet, tous les États de l'Union européenne sont confrontés à des situations identiques. » Fin de cette citation-là, de son état des lieux, qui donc met en parallèle avec les pays voisins, donc pour nous dire que c'est pas une exclusivité française quand même, le fait que ça se soit aggravé ces dernières années. Lui aussi, il a des statistiques que le journaliste qualifie de vertigineuses à présenter, avec 44,8 tonnes de cocaïne depuis le mois de janvier saisies apparemment. C'est le nombre de tonnes de cocaïne qu'il nous donne pour 2024. On a encore un mois à vivre en 2024, donc apparemment les flics en seraient actuellement à 44 tonnes, plus de 44 tonnes et demi, presque 45 tonnes de coke saisies au moment de l'audition du patron de la police nationale, hein, ce qui est énorme quoi. Puisqu'en 2023, ils ont saisi sur l'ensemble de l'année, et non pas en 11 mois cette fois-ci, seulement 23,2 tonnes. On a déjà quasiment le double en 11 mois de 2024. Effectivement, ça rigole pas du côté de la cocaïne. 434 000 amendes forfaitaires délictuelles délivrées depuis septembre 2020. Alors, on en a parlé aussi des amendes délictuelles ces dernières éditions d'Il y a de la fumée dans le poste, notamment leur taux de recouvrement relativement faible. Mais on voit quand même qu'à travers ce nombre de 434 000 amendes, hein, ce qui est quand même beaucoup, beaucoup plus que ce qu'on vous donnait ces derniers temps, hein, on était plutôt dans les 260 000 à 300 000 amendes, bah lui, il dit que ça a bien continué et que ça semble continuer malgré donc l'inefficacité à peu près avérée par, c'est pas nous qui le disions ces derniers temps, c'était des gens beaucoup plus qualifiés et beaucoup plus notables pour pouvoir le faire. Pareil, rendez-vous sur le blog si vous voulez plus de détails. lafumedanleposte.blogspot.com, c'est un aspect des choses qu'on a traité dans les éditions précédentes de Il y a de la fumée dans le poste à celle d'aujourd'hui. Voilà, il fait aussi la défense de l'OFAST, il nous fait la défense de PlaceNet, c'est une petite citation sur PlaceNet, allons-y. En un an, les services de la DGPN ont initié 279 opérations de cette nature, qui ont conduit à l'interpellation de 6800 personnes, la saisie de 690 armes, de 7,5 millions d'euros d'avoirs criminels et plus d'1,7 tonnes de stupéfiants. Il rajoute le fait d'avoir une opération où on affiche un effet fort sur le terrain est important. Mais il rajoute aussi un petit peu plus loin, nouveau entre guillemets, que ces opérations, c'est là que s'ouvrent les guillemets, ne se suffisent pas à elles-mêmes. Bref, il est quand même nettement plus enthousiaste que ceux qu'on a pu citer ces derniers temps, mais bon, il met une petite nuance à la fin, mais il est quand même très très enthousiaste. Il nous parle du statut de repenti, enfin bref, hein, vraiment un bon élève quand même, hein. Comme je le disais, il est quand même assez sur la même longueur d'onde que le gouvernement actuel. Il plaide pour la... Ah oui, ça je voulais l'évoquer en fin d'article, on peut lire qu'il plaide pour la création d'un nouveau cadre juridique et là c'est entre guillemets, d'une technique spéciale de captation des données à distance aux fins de captation d'images et de sons relevant de la criminalité ou de la délinquance organisée. Fin de citation. Bah en fait, ça c'est un truc que le Conseil constitutionnel a rejeté le 16 novembre dernier, l'année dernière, en 2023. C'est la possibilité par les flics d'activer les smartphones à distance. Tout bêtement, hein, ça avait été rejeté, je crois qu'on l'avait évoqué à l'époque, par le Conseil constitutionnel, à notre grand soulagement, pour que la société numérique... avec la grande complicité de 99,9% de cette population a pu être mis en place ces 10 dernières années, ne deviennent pas la techno-dictature que je dénonce, dont je dénonce le risque maintenant concret, depuis aussi à peu près la même période à ces mêmes micros, quoi. Et bah, vous voyez que ça aussi, c'est absolument pas gagné, hein. Les flics continuent à demander ce genre de possibilités, et ils ont des relais politiques assumés au sein du Sénat, en tout cas. On voit là à l'œuvre comment ça se passe, quoi. C'est en train une nouvelle offensive pour que les flics aient cette nouvelle possibilité là d'activer des micros et des caméras directement chez vous, selon leur bon vouloir. Et on sait très bien que si c'est rendu possible dans un certain cadre réglementaire, ça sera aussi rendu possible en dehors de ce cadre réglementaire. On connaît les comportements habituels de toutes les polices de la Terre, hein, pas spécialement de la police nationale française, dans ce genre d'occasion, hein. C'est plus que notoire et avéré. Voilà, donc moi, ça, je trouve ça Voilà, bon allez, je passe, tu veux...
Non, je voulais juste souligner un aspect que je trouve intéressant dans cette audition, c'est pas du tout pour revenir sur le flic qui, rappelons-le, a été nommé par Retailleau, hein, ouais, qui est quand même un mec d'extrême droite, hein, faut quand même le rappeler un petit peu de temps en temps, parce que de temps en temps, on enrobe un peu les choses un peu bien, mais faut rappeler que ce type est un type d'extrême droite et qu'il est en train de nommer ses pions à la tête des grands services, dont la police nationale. Ce qui est intéressant dans cet article, et notamment dans la discussion qu'il y a eu, c'est la position du sénateur socialiste, je me rappelle plus de son nom, mais qui est le rapporteur de cette loi, où il insiste sur la dimension patrimoniale des enquêtes, et il dit qu'il y a vraiment un gros manque là-dessus. Et je trouve ça intéressant parce qu'on a vite fait, je pense que la police, elle, elle a tout intérêt à faire du chiffre, donc c'est-à-dire à courir après du chiteux, mais en revanche, ce qui fait moins de chiffres et qui pourtant est autrement plus efficace normalement, c'est la lutte pour, contre l'amoncellement de richesses de la part de certains et de certaines. Et là-dessus, il insiste un peu, le sénateur socialiste, j'ai trouvé ça intéressant parce que c'est une dimension qui n'apparaissait pas beaucoup précédemment.
Ouais, ok. Très bien. Allez, on tourne cette page-là et on vous donne rendez-vous après un petit morceau de musique pour parler un peu plus des aspects. Alors d'abord, la stigmatisation des usagers encore un petit peu avec la tribune de Bertrand Lebeau, mais aussi parler un peu de la réforme qui aurait dû avoir lieu du cannabis médical en France. Un sujet qu'on aborde un peu trop rapidement ces derniers temps, donc on va prendre le temps d'en parler un petit peu plus. Après, un morceau signé Trisomie 21, il s'appelle The Perfect Side of Doubt et c'est tout de suite dans Y'a de la fumée dans le poste.
Another world and world, a world thing.
Radio Libertaire, la voix sans Dieu, sans maître, sans pub de la Fédération Anarchiste, 89.4 FM ou www.radio-libertaire.net. Vous venez d'entendre, dans Il y a de la fumée dans le poste, un morceau signé Trisomie 21, intitulé The Perfect Side of Doubt et tiré de leur album de 1992, Distant Voices, sorti chez Play It Again Sam. Voilà, c'est Il y a de la fumée dans le poste, donc on est ensemble jusqu'à 20h30 en direct sur l'antenne de Radio Libertaire et on vous parle de l'actualité des drogues en général, de celle du cannabis plus particulièrement, c'est le thème de notre émission et là oui on va parler cannabis, on va parler, enfin non pas vraiment. C'est un médecin addictologue très impliqué dans la politique de réduction des risques, y compris dans ses premières heures d'acceptation dès les années 90, qui s'est fendu d'une tribune dans la presse. C'est Bertrand Lebeau, les Bovici. On le connaît bien, Bertrand Lebeau, hein, c'est un compagnon de route des associations qui milite pour une autre politique des drogues en France depuis fort longtemps et un pionnier de la réduction des risques, hein, clairement. Donc il a toujours une voix qui porte et qui a une certaine importance et il lui aussi... j'allais dire il s'étonne, le mot est beaucoup trop faible, il s'insurge, vous allez voir, contre la nouvelle rhétorique du gouvernement visant à stigmatiser, à mettre la responsabilité des violences du trafic de stupéfiants en France sur le dos des usagères et des usagers de stupes. Vous savez sans doute, si vous nous écoutez ce soir, que c'est un sujet très sensible aussi. Ici, il y a de la fumée dans le poste. On n'appréciait pas du tout que Darmanin et consorts, surtout Dupond-Moretti, donc, est repris un peu cette vieille antienne de la stigmatisation des usagers et des usagères, surtout en se défaussant de leur responsabilité propre, comme ça, parce que c'est quand même plus du ressort, à nos yeux, du ministère de l'Intérieur, hein, la sécurité et l'ordre public, beaucoup plus du ressort du ministère de l'Intérieur que de celui des fumeurs de pétards, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Donc... ça nous agace beaucoup tout ça. Et bah lui aussi, bon, c'est pas tout à fait pour des motifs plus scientifiques et plus médicaux et tout ça. Hein. Sans doute que ça le choque, Bertrand Lebeau. Et donc, il a écrit et fait publier cette tribune sur le site du Nouvel Obs, nouvelobs.com. Ça a été daté du 28 novembre dernier. C'est donc signé Bertrand Lebeau. Ça s'intitule « Drogue ». Il y a bien sûr un S. Hein. « Drogue, 2 points, qui a du sang sur les mains ?» Je vous lis le petit chapeau qui est rédigé par l'Obs. Bertrand Lebeau, les Bovici, médecin addictologue spécialisé dans la réduction des risques liés à la toxicomanie, s'insurge contre la nouvelle rhétorique du gouvernemental de culpabilisation des usagers. Pour l'auteur de Drogue, 2 points, La Longue Marche, aux éditions Paper, L'Harmattan, il s'agit d'une terrible régression destinée à masquer les échecs de nos politiques répressives. C'est donc le deuxième épisode du sujet que je vous avais fait il y a 2 semaines à ces mêmes micros pour un peu contredire tout ce qu'on entendait à l'époque sur ce sujet-là, quoi, dans la plupart des médias traditionnels, quelques voix contradictoires qui s'étaient élevées dimanche il y a 2 semaines, bah en voici une de plus, je rajoute celle de Bertrand Lebeau. Je vais pas la lire en entier cette fois-ci, mais je vais lire les deux passages les plus pertinents, ceux qui parlent de maintenant, réellement, c'est-à-dire le début et la fin. J'attaque tout de suite, donc ça s'appelle « Drogue, qui a du sang sur les mains ?» C'est signé Bertrand Lebeau. Et ça commence par une citation, par des citations. Les drogués ont du sang sur les mains. S'il n'y avait pas de drogués, il n'y aurait pas de trafiquants. Fin de citation. Des ministres de l'Intérieur d'hier et d'aujourd'hui, de Gérald Darmanin à Bruno Retailleau, ces slogans sont désormais au cœur de la rhétorique de l'État français. La raison en est simple. Les nouvelles formes violentes du narcotrafic et l'incapacité des gouvernements successifs à lutter efficacement contre elles. Les usagers de drogue sont alors les boucs émissaires idéaux. C'est une terrible régression à laquelle on assiste aujourd'hui en France qui risque d'effacer 30 années de progrès en santé publique, mais aussi en matière de droits humains. Une dérive démagogique qui ne mènera à rien de bon. Il continue, revenons 3 décennies en arrière pour mesurer l'absurdité de ce raisonnement, c'est-à-dire qu'il revient au début des années 90, au moment où l'épidémie de sida frappe de plein fouet les populations injectrices de stupéfiants, enfin ou de drogue tout court. Bref, l'épopée de la réduction des risques et de son acceptation par du gouvernement RPR, s'il vous plaît, à l'époque, dont il a lui-même été un des acteurs principaux, hein, Bertrand Lebeau. Là, je passe. C'est une histoire qu'on rappelle de temps en temps à ces micros. On n'a pas trop le temps aujourd'hui. Vous pouvez donc découvrir ça si vous allez sur le site du Nouvel Obs. J'en viens aux deux dernières parties de sa tribune qui traite de maintenant. L'avant-dernière partie intitulée « Santé publique versus répression » et qui pose la question « Où en est-on aujourd'hui ?» Le contexte actuel est caractérisé en Europe par trois grandes tendances. Tout d'abord, la montée en puissance des drogues de synthèse qui, contrairement aux drogues issues de plantes comme le cannabis, le pavot à opium ou le cocaïer, peuvent être fabriquées n'importe où à partir de précurseurs. Ensuite, le rôle grandissant de l'Internet et des réseaux sociaux dans l'accès à de nombreuses drogues illicites. Enfin, le niveau de violence, de corruption, mais aussi de professionnalisme du narcotrafic. Et la dernière partie, les usagers boucs émissaires. Impuissants à lutter contre cette nouvelle donne, les pouvoirs publics ont décidé de rendre les consommateurs responsables de leur échec. Gérald Darmanin, alors ministre de l'Intérieur, déclare en septembre 2023, entre guillemets, s'il n'y avait pas de consommateurs, s'il n'y avait pas des gens qui fument du cannabis, s'il n'y avait pas de gens qui prennent de la cocaïne, il n'y aurait pas de point de deal, il n'y aurait pas de règlement de compte. Fin de citation. Le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, n'est pas en reste. Le 20 mars 2024, il déclare, de point ouvrez les guillemets, celui qui fume son petit pétard le samedi, ce pétard-là, il a le goût du sang séché sur les trottoirs. Fin de citation. Le record, entre guillemets, si l'on peut dire, est battu par Sabrina Agresti-Roubache, ancienne secrétaire d'État à la citoyenneté et à la ville, qui, oubliant 30 années de lutte contre les infections transmissibles comme le VIH et le VHC, le virus de l'hépatite, et voulant manifester son opposition aux salles de consommation à moindre risque, désormais appelées halte soins addiction, déclare, de point ouvrez les guillemets, donner une seringue à quelqu'un pour aller se droguer, ce n'est pas faire de la prévention. Fin de citation. Effectivement, nous aussi, les bras nous en sont tombés quand on avait entendu toutes ces citations. On voit que Bertrand Lebeau n'a pas perdu sa plume pour dénoncer. Alors, elle est importante, sa plume, parce que je le rappelle, il n'est pas activiste du cirque, activiste contre la prohibition du cannabis. Hein. Vous savez, les affreux qui veulent qu'on distribue le cannabis à la sortie des écoles en légalisant, hein, pour caricaturer, enfin, pour tenir le niveau de caricature de nos opposants, à peu près. Non, non, lui, il est médecin addictologue, pionnier de la réduction des risques. Il a permis, il est un de celles et ceux dont l'action a permis dans les années 90 d'enrayer l'épidémie de sida au sein d'une population très fragilisée et de reconnaître la pertinence de ce genre d'approche sanitaire et non plus punitive de l'usage de drogue par ces populations, par des gouvernements aussi réactionnaires que ceux actuellement aux manettes de la République française. C'était Chirac, c'était Pasqua, c'était le RPR, bon sang. Eh ben, il a raison, il a raison. Et on le remercie d'avoir écrit et fait publier cette tribune, parce que notamment cette dernière partie-là, que je viens juste de vous lire, elle était fondamentale qu'elle soit rappelée de la part de ce genre de personnes. Merci Bertrand Lebeau. J'enchaîne sans réelle transition, sauf qu'on reste dans le milieu scientifique et médical avec le devenir de l'expérimentation du cannabis médical en France, qui, vous le savez, a plus que du plomb dans l'aile. Hein, ça fait des éditions après éditions qu'on vous dit que ça sent très très fortement le sapin à l'occasion du vote du budget et notamment de la loi du budget de la sécurité sociale pour 2025. Alors je reviens pas sur le feuilleton parlementaire auquel on continue d'assister depuis maintenant plus d'un mois. Peut-être le dénouement cette semaine, peut-être avec la fin justement de monsieur Bruno Retailleau et consorts, on n'en sait rien du tout. Et puis de toute façon, c'est tellement lamentable tout ça que vraiment je pense qu'on n'a vraiment pas besoin d'en rajouter ici, mais on va quand même vous relayer la dernière initiative et qui sera la dernière à tout point de vue, hein. C'est la dernière dans l'actualité et il n'y en aura pas d'autre, hein. C'est la dernière peut-être possibilité de voir un tant soit peu sauver des années de travail de la part à la fois d'associations d'usagers thérapeutiques de cannabis en France, de personnel de soins français et d'agences sanitaires françaises pour expérimenter non pas l'acceptation du cannabis médical en France, mais les modalités selon lesquelles on allait accepter le cannabis médical en France pour les 5 indications qui avaient été retenues pendant les 2 à 3 ans que devait durer cette expérimentation médicale. J'espère que je me suis bien résumé. Si c'est pas le cas, j'ai tout de suite un premier article à vous conseiller, c'est en fait une dépêche de presse qui a été reprise à nouveau sur le site du Nouvel Obs, le nouvelobs.fr. C'est en date du 26 novembre dernier. Ça s'appelle « Des milliers de patients trahis », c'est entre guillemets. De point, le cannabis médical à nouveau dans l'impasse alerte les professionnels. Je l'aborde pas cet article, cette dépêche ou article du Nouvel Obs, mais ça permet aux gens qui comprennent pas de quoi je viens de parler de refaire le point, quoi. Elle parle de l'initiative dont je vais vous parler, mais avec la curieuse manière de pas la nommer et de pas dire clairement d'où elle vient et tout ça. Moi, je vais le faire. Donc voilà. Mais si vous savez pas de quoi je parle, si vous êtes largué, nous on vous en parle par le détail depuis le début de tout ça. Donc c'est pour ça que je n'y reviens pas non plus ce soir. Il y a tout ça dans cet article et pour les courageux sur le blog de l'émission, lafumedanleposte.blogspot.com. Vous parcourez les émissions des 4 dernières années et vous trouverez tout le détail de tout ça, quoi. On a vraiment détaillé avec des gens partis prenante de cette expérimentation, que ça soit des associations d'usagers, ou même des usagers inclus dans l'expérimentation médicale qui sont venus témoigner à nos micros, etc. Bref, c'est lafumedanleposte.blogspot.com, la meilleure adresse pour vraiment connaître tout ce qui est possible de savoir à propos de cette expérimentation médicale qu'on est en train de nous voler, de voler aux usagers et usagères thérapeutiques de cannabis, et notamment à ceux qui étaient inclus, ils sont plus de 3000 maintenant, inclus dans cette expérimentation médicale. Donc l'article du Nouvel Obs, on vous le met en lien sur le blog dans l'article de l'émission d'Il y a de la fumée dans le poste d'aujourd'hui et vous y aurez accès. Et si vous fouillez le blog, vous aurez tous les détails. Non, moi je vous indique deux choses. Je vous indique un article qui a été publié par nos copains et copines de Principes Actifs sur leur site internet principesactifs.org. C'est une des associations d'usagers thérapeutiques de cannabis qui avait été auditionné et qui était partie prenante dans cette expérimentation médicale et qui se sent allègrement trahi par comment ça c'est en train de se terminer. Ils ont publié, même s'ils n'y participent pas à cette initiative, ils ont publié tout ce qu'on peut savoir sur leur site principesactifs.org. Il y a un article intitulé « Cannabis santé, manifeste pour un accès pérenne et durable au cannabis médical » qui reprend toute cette initiative. Moi, je vais en prendre que le principal, la petite présentation qu'en font les auteurs et les acteurs, actrices eux-mêmes de cette initiative. Donc, elle s'appelle « Cannabis santé », tel que c'est relayé sur le site de Principes Actifs, mais en fait, tel que c'est publié par ces gens-là. Je dirai ensuite deux, trois petites choses sur qui sont réellement ces gens-là quand même, hein, c'est important. Donc je vous lis leur prose de présentation à ces gens qui se regroupent sous l'intitulé « Cannabis santé ». En un seul mot valise, avec une majuscule quand même à « santé » au milieu du mot. « Cannabis santé » regroupe un ensemble de personnalités qualifiées et expertes réunies pour que le cannabis à usage médical devienne une option thérapeutique disponible et considérée au même titre que les autres traitements médicamenteux. Les réflexions sont uniquement dédiées au cannabis à usage médical et excluent le cannabis récréatif, les compléments alimentaires et autres solutions à base de CBD vendues en pharmacie. Au regard de l'ampleur des enjeux liés à la future mise sur le marché de traitements à base de cannabis médical, Cannabis Santé souhaite un engagement politique permettant d'aboutir à l'usage médical du cannabis en France, structurer et pérenniser les filières de soins et ressources industrielles pour les patients et les professionnels de santé. Pour cet engagement, Cannabis Santé a travaillé à des propositions répondant à 5 enjeux dont je vous donne le détail. 1. Garantir la prise en charge pérenne et sécurisée de traitements personnalisés pour tous les patients susceptibles d'y avoir recours. En 2, définir un parcours de santé adapté aux patients nécessitant l'usage du cannabis médical. En 3, encourager la recherche et le développement clinique en vie réelle. Ensuite, créer la filière agricole et industrielle française du cannabis médical. Et en 5, mettre en place un cadre économique encourageant et soutenant la filière industrielle française et européenne. Je rajouterai à titre personnel que ces 5 enjeux relèvent du bon sens, effectivement, si on veut mettre en place une prescription et une distribution un temps soit peu efficace de dérivés de cannabis ou de cannabis à usage médical en France, comme c'était promis pour 2025. Je reprends la lecture de cette présentation de Cannabis Santé. En l'absence d'un tel engagement, les nombreux patients bénéficiant de l'expérimentation et ceux qui attendent toujours d'être traités se retrouveront privés de traitement ou d'options thérapeutiques adaptées. Il s'agit pourtant d'une solution thérapeutique permettant de répondre à divers symptômes très invalidants et impactant fortement la santé et la qualité de vie, mais qui ne trouve aucune réponse satisfaisante avec les autres traitements traitement de référence disponible. Ces patients vont se trouver en impasse thérapeutique. L'urgence est aussi de mettre à disposition le cannabis à usage médical aux patients en soins palliatifs. Voilà la fin de ce texte de présentation de Cannabis Santé qui, je le répète, a été rédigé par eux-mêmes, Cannabis Santé. C'est pour ça que j'insiste, mais c'est donc aussi que c'est à 100% partie prenante. Si vous voulez aller plus loin, allez directement sur le site de principesactifs.org. Nos copains et copines ont très bien fait le travail. Ils vous mettent ensuite en accès libre un PDF de 10 pages qui reprend le détail, tout le détail tel que publié par Cannabis Santé de leur action. Tout ce qu'ils transmettent aux autorités pour pouvoir enfin avoir la pérennisation donc des faibles acquis de cette expérimentation médicale qui a été menée pendant 3 ans et qui devait de toute façon devenir pérenne en 2025. Il y a en plus donc 10 propositions qui sont détaillées également dans l'article que je vais vous indiquer ensuite si vous avez la flemme de lire les 10 pages de PDF, je vous comprends. Mais il y a 10 propositions concrètes qui sont faites par Cannabis Santé. Donc tout ça, c'est dans l'article de Principes Actifs. On vous met le lien sur le blog lafumedanslepost.blogspot.com, bien sûr, pour celles et ceux que ça intéresse particulièrement. Mais avant de poursuivre, il faut quand même que je vous dise 2-3 petites choses. Vous aurez peut-être noté que nos copains et copines de Principes Actifs, dont on est très proche ici, il y a de la fumée dans le poste sur Radio Libertaire, c'est des patients et patientes sévèrement atteints pour la plupart, qui sont eux-mêmes des désobéissants et désobéissantes, puisqu'ils s'auto-produisent et auto-administrent des traitements illégaux à base de cannabis. Leur action associative et militante, le fond de leur action est de reconnaître leurs usages, qui, de toute façon, face à la maladie les force à avoir ces usages, qu'ils soient clandestins ou reconnus, la maladie les force à avoir ce type de comportement et d'usage thérapeutique. Eux, ce qu'ils veulent, c'est qu'on les emmerde plus, tout bêtement, quoi. Alors, ils sont pas partie prenante. Pourquoi ? C'est parce que, toute cette initiative est issue quand même de quelqu'un qui s'appelle Neil, avec une majuscule. C'est un nom propre, mais c'est aussi une espèce de marque. En fait, c'est une agence de communication qui est cliente habituellement des laboratoires pharmaceutiques. Il y a Boiron, d'ailleurs, pour ne pas les citer, qui sont partie prenante dans cette initiative Cannabis Santé. Neil est donc ce qu'on appelle une entreprise capitaliste qui fait rémunérer ses services et pour lesquels les assos parties prenantes dans cette initiative auraient travaillé bénévolement pour que Neil puisse ensuite faire valoir ses honoraires ou son salaire, ou je sais pas comment on dit dans leur jargon à eux, auprès des laboratoires pharmaceutiques qui vont les payer. Donc ça, déjà, en soi, pour certaines associations, c'est un problème. Il y a des associations d'usagers et usagères qui sont partie prenante dans Cannabis Santé, mais pas Principes Actifs. Autre critique qu'on peut y faire, c'est qu'il n'est nullement question d'autoproduction. Et ça, on sait que pour Principes Actifs, et bien sûr nous-mêmes, il y a de la fumée dans le poste, on est particulièrement sensible à cet aspect-là des choses. Il est nullement question d'autoproduction. Et c'est évident, puisque c'est des laboratoires pharmaceutiques qui financent et qui mettent en place, par le biais de la boîte de com Neil, cette initiative. Donc forcément, c'est des commerçants capitalistes et aussi, puisqu'il y en a dans cette coalition, des producteurs, donc des agriculteurs, qui n'ont aucun intérêt à ce qu'on légalise l'autoproduction à visée médicamenteuse, à visée médicale du cannabis en France, et qui donc vont se mettre un point d'honneur de ne pas défendre une telle concurrence. On ne peut pas compter sur ces gens-là pour défendre le droit à l'autoproduction. Je pense, je ne vous le dis pas officiellement, mais je pense, je les connais bien, que c'est pour ça que nos copains et copines de Principes Actifs n'ont pas directement affiché leur participation à cette initiative, et je pense que c'est la critique principale qu'on peut faire. J'en veux pour preuve qu'il est très peu question de la question qui fâche aussi au sein du gouvernement français dans le cadre de cette expérimentation du cannabis médical, c'est la forme galénique des fleurs séchées. Il n'en est quasiment pas question dans cette publication de 10 pages de Cannabis Santé. Alors là, on peut féliciter Aurélien Bernard, le rédacteur des articles de Newsweek, qui a lu, ça lui a pas échappé. Et donc, si vous voulez une critique, un article qui à la fois vous détaille un petit peu plus que ce que je viens de faire, parce que là il y a les 10 propositions qui sont données de manière exhaustive dans l'article d'Aurélien Bernard. C'est donc sur Newsweek qu'il faut que vous vous rendiez. Site d'information internet, alors financé par les industriels du cannabis cette fois-ci. Donc lui aussi pour le coup vraiment capitaliste, d'ailleurs vous allez le voir à l'agression publicitaire que vous allez subir en arrivant sur le site. Mais bah, si vous survivez à cette déferlante de pub, vous pourrez lire un très bon article intitulé « La coalition Cannabis Santé milite pour l'accès au cannabis médical en France », rédigé par Aurélien Bernard et publié le 26 novembre dernier. Donc vous aurez un petit peu plus de détails dans en quoi consiste cette initiative Cannabis Santé. Et vous aurez aussi plus de recul que le texte que je viens de vous lire. Il fait une vraie critique de cette initiative. Et je vais donc vous lire les deux paragraphes les plus pertinents qu'il a rédigés, Aurélien Bernard. Celui-ci. Au-delà de ce plan pragmatique, nous remarquerons que la définition très raccourcie du cannabis médical, dont sa représentation pourtant majeure dans tous les pays où il est disponible, la fleur de cannabis, est ici réduite sans être nommée à une seule ligne, qu'il cite entre guillemets. D'autres galéniques sont possibles, telles que la forme pour inhalation par vaporisation. Effectivement, c'est bien timide pour parler de fleurs ou de sommité florale séchée, qui est la forme galénique de base, c'est-à-dire la forme médicamenteuse de base, c'est-à-dire on fait pousser un plant, on prend ces fleurs, on les fait sécher et on les inhale. Voilà. Voilà l'autre partie que... Alors, pardon, pour être complet sur cette citation, pour favoriser les autres galéniques, les formes à base d'extrait. L'autre petit paragraphe. Comme l'affirme la coalition, ce moment est crucial pour garantir que le cannabis médical passe d'un statut expérimental à une option de traitement pleinement intégrée et réglementée. C'est la conclusion de l'article. Et c'est pourquoi, effectivement, il est quand même si important que le but visé par l'initiative Cannabis Santé soit malgré tout atteint. Voilà ce qu'on pouvait vous dire ce soir dans Il y a de la fumée dans le poste, là où on en est, mais bon, vous avez compris que nous on n'y croit plus depuis longtemps, et on vous donne quand même encore une fois rendez-vous dans les éditions qui vont suivre pour enfoncer le dernier clou du cercueil de cette expérimentation du cannabis médical à la française. C'est quasiment maintenant à la fois inévitable et ça va arriver très rapidement, normalement. Allez, on repart faire un nouveau tour en musique dans cette fumée dans le poste de ce dimanche 1er décembre 2024 en Afrique cette fois-ci avec Fela qu'on n'a pas écouté depuis hyper longtemps dans Il y a de la fumée dans le poste, et c'est pour ça que je vous propose ce soir un morceau dont j'aime bien le titre, Government Chicken Boy par Fela, tout de suite dans Il y a de la fumée dans le poste. Radio Libertaire, la voix sans Dieu, sans mettre sans pub de la Fédération Anarchiste, c'était Fela Kuti dans Il y a de la fumée dans le poste. Un morceau intitulé Government Chicken Boy, et c'est la face B d'un maxi sorti chez Celluloid en 1985. Sur la face A, c'est Army Arrangement et un autre morceau dont j'ai oublié le titre. Voilà, vous nous écoutez sur Radio Libertaire, comme je l'ai dit, on est ensemble pour encore trois quarts d'heure en direct sur la plus rebelle des radios, c'est Y'a de la fumée dans le poste. On continue notre tour de l'actualité des drogues en général. Alors là, on reste dans le domaine des drogues, et oui, des drogues vraiment au pluriel, puisque un dossier qu'on suit très attentivement et qu'on soutient, c'est celui de l'implantation de salles de consommation à moindre risque. Ah, ça, c'était leur ancien intitulé officiel. Maintenant, on parle de halte soins addiction. Bertrand Lebeau, dans sa tribune, lui aussi reprenait les deux pour être bien sûr de quoi on parle. En tout cas, on parle pas de salle de shoot ici, hein, même si les articles, malheureusement, ce soir qu'on va évoquer, eux, le font allègrement. Encore une fois, ça nous emmerde. Je le dis une fois, allez, je reviendrai pas, mais bon. À chaque fois que je vais dire salle de shoot, c'est que c'est comme ça que c'est dit dans l'article. Et on aimerait bien que ça soit autre chose. Alors le premier article dont je vais vous parler, justement, lui, il est à la fois exemplaire et caricatural, quoi. Pour vous montrer un peu où on en est de ces questions de réduction des risques, de la compréhension et de l'acceptation par tout un tas de gens, de simples citoyens et citoyennes, mais aussi de médias qui appuient là-dessus et de politiciens et siennes qui surfent sur ce genre de bas instinct. Quand il est question donc d'implantation de salles de consommation à moindre risque, ou halte soins addiction, ou vulgairement salle de shoot dans un quartier. Ça se passe à Bordeaux cette fois-ci, ça fait depuis Marseille, hein, depuis l'histoire de Marseille où la salle était prête à être ouverte et son ouverture a été finalement empêchée par, je crois que ça venait du conseil municipal, hein, directement, non, de la préfecture, donc du ministère de l'Intérieur directement. Et ben cette fois-ci c'est à Bordeaux que ça se passe, mais là c'est les riverains qui sont en première ligne. En tout cas, dans l'article que j'ai sous les yeux maintenant, on l'a trouvé sur actu.fr, un site d'actualité de l'internet, actu.fr. Il est signé Anaël Montagne, cet article. Il a été publié le 21 novembre dernier et ça s'appelle, entre guillemets, « Ça va être une salle de shoot en plein air ». Fin de citation. Deux points. Un lieu d'accueil pour toxicomanes sème la panique à Bordeaux. Et l'essentiel est vraiment dans le titre. Hein. La citation fait tout de suite froid dans le dos quand on est un petit peu... défenseur des politiques de réduction des risques, et quand on comprend un petit peu mieux tout ce qui se passe derrière tout ça. Mais le terme de panique n'est pas non plus forcément exagéré, hein, puisque cet article, c'est vraiment le fait que les journalistes ou la journaliste d'actu.fr est allée à la rencontre des résidents d'un quartier de Bordeaux. Ce quartier, on le trouve derrière les bassins à flot, elle nous dit, pour être encore plus précis, à l'angle de la rue Blanqui et de la rue des Étrangers. C'est une rue qui mène au port de Bordeaux, on doit être quand même relativement dans le centre de Bordeaux, que ça se passe dans ce quartier-là. Elle est allée à la rencontre des usagers qui sont donc, d'après ses mots à elle, même en pleine panique. Pourquoi ? Parce qu'il est prévu qu'on y installe, qu'on y implante dans ce quartier, non pas une salle de consommation à moindre risque, non, une antenne Carude. C'est-à-dire une association de réduction des risques va ouvrir un petit local, avec pas forcément une devanture identifiable, hein, on n'en sait rien, à destination des populations usagères de drogue avec un S et... qu'elle soit légale ou illégale, pour leur donner un point d'appui de réduction des risques et de prévention pour pouvoir essayer d'améliorer leur santé et tout ça. Ça s'appelle de la réduction des risques, c'est officiellement, son utilité est officiellement reconnue depuis plus de 30 ans maintenant, etc. Je reviens pas sur ce que j'ai dit précédemment et tout ce qu'on a pu dire de les années précédentes, il y a de la fumée dans le poste. Donc c'est rien, c'est une petite antenne Carude qui doit s'installer, c'est comme ça qu'elle est présentée dans l'article, dans ce quartier. Mais c'est bel et bien, la journaliste emploie plusieurs fois le mot, la panique qui semble avoir gagné de nombreux habitants de ce quartier. Elle est allée vers des commerçants, des chefs d'entreprise, etc., d'un quartier qu'elle décrit comme paisible et toujours en plein développement. Et elle relaie donc les propos de ses habitants et habitantes. Donc je ne vais pas vous faire le détail parce que j'ai l'estomac sensible. C'est toujours gênant quand on fait de la radio en direct, mais vraiment c'est... on arrive à la fin de l'article, on a une un haut le cœur d'une overdose de démagogie et de populisme et d'ignorance crasse aussi autour des politiques de réduction des risques, parce que là vraiment on a le droit à la totale, quoi, à la totale. Ces braves gens et ces braves gens nous la font tout, quoi. Le développement du quartier qui a l'air formidable, hein, ils ont accueilli des belles entreprises. Il y a Betclic par exemple dans les entreprises, hein, c'est tout à fait recommandable effectivement, et très utile pour l'humanité, hein, ce genre de choses. Bref, le développement socio-économique va forcément en pâtir. On nous parle que ça va se faire tout près d'écoles, on nous parle que les bandes de toxicomanes en errance vont envahir le quartier. Enfin, on a vraiment droit à la totale, jusqu'au prix de l'immobilier, qui vont forcément chuter de manière catastrophique. Vraiment, ils nous font un florilège, un petit best-of, là, les riverains et riveraines interrogés par Actu.fr, de tous les poncifs qu'on peut entendre dans la propagande de ces gens-là, habituellement, effectivement. Pourquoi ? Parce que ces gens-là sont bloqués sur le fait... En fait, c'est le boucher du coin, hein, qui lâche le morceau, puis aussi qui obtient le pompon, hein. C'est lui qui est cité dès le titre de l'article, parce que c'est quand même lui qui va le plus loin dans tout ça, hein, où il dit donc que ça va être des salles de shoot à ciel ouvert, alors que il n'est pas du tout question de salles de consommation. C'est juste une antenne de Carude. On ne sait même pas s'il va y avoir un programme d'échange de seringues qui va y être, ou de distribution de Steribox ou ce genre de choses, quoi, qui va y être développé dans cette antenne Carude. On n'en sait strictement rien. Et non, bah non, c'est vraiment eux l'aspect le plus caricatural des choses qu'ils ont à l'esprit, et donc bah leurs déclarations sont exactement du même tonneau, quoi. C'est vraiment impressionnant. À qui il faut donner la parole pour avoir une parole un tout petit peu plus apaisée? Bah c'est les institutions, hein, l'Agence régionale de santé, qui a été interrogée par Actu Bordeaux. Qui est direct, quoi, je veux dire, qui lève toute ambiguïté dans ses réponses apportées à ces riverains très très anxieux, puisque eux ils disent que ce site du bassin à flot, des bassins à flot, se trouve à proximité directe de deux quartiers qui sont prioritaires pour la ville, le quartier de Bacalan et le quartier du Lac, qui sont à leurs yeux aussi, et là c'est entre guillemets, hein, ce sont les mots de l'ARS locale, qui est eux-mêmes des zones historiques de revente et de consommation de produits psychoactifs. Ils rajoutent dans leur réponse qu'il y a des campements de personnes sans domicile fixe qui sont installés près du fameux lac qui donne son nom au quartier. Ils disent, c'est à nouveau entre guillemets dans l'article, c'est transformé nécessite d'installer de nouveaux services, dont des services de soins spécialisés, des services de prévention, lesquels participent au maillage du territoire pour répondre aux besoins de la population. Voilà la réponse que fait l'ARS à ses riverains et riveraines. Elle insiste également sur le fait que dans un autre quartier, le quartier Bastide à Bordeaux, où a été implantée une antenne Carude, il y a une absence de troubles à l'ordre public. Ça aussi, c'est un des arguments des riverains, les troubles à l'ordre public. Et donc, bah non, ça s'est déjà fait à Bordeaux sans apparition de ces fameux troubles à l'ordre public. C'est ce que leur répond l'ARS. Voilà, donc elle précise aussi, et ça c'est à nouveau entre guillemets, que cette antenne, ouvrez les guillemets, ne sera ouverte que 5 demi-journées par semaine, du lundi en vendredi, les après-midi. Voilà pourquoi les riverains nous assènent leur avalanche de poncifs, de stéréotypes stigmatisants et complètement contre-productifs en matière sanitaire, en matière de protection des populations les plus fragiles, en matière de prévention et de réduction des risques. C'est du grand n'importe quoi. En fait, pour faire court, la propagande réactionnaire que nous font les tauliers des réseaux sociaux qui s'opposent à la salle de consommation de la Riboisière déteignent sur les populations en général et empêchent le développement des actions beaucoup plus habituelles beaucoup plus modeste, mais beaucoup moins choquante aux yeux de ces mêmes conservateurs zétrices. C'est complètement dingue, quoi. C'est complètement dingue. Oui, d'avoue, je vois que tu as envie de rebondir.
Oui, ouais, parce qu'il y a quelqu'un d'autre, quand même, qui, en la matière de stigmatisation et de discours complètement caricatural, se posait là. Il n'est plus ministre de l'Intérieur, mais il a encore des ambitions. C'est Gérald Darmanin qui nous disait « la drogue, c'est de la merde ». Et je pense que les mecs de Bordeaux, là, qui se mobilisent, bah, ils sont à la hauteur du discours qui est tenu par le ministre de l'Intérieur. Un truc stigmatisant et complètement infondé.
Ouais. Ouais, un autre qui est concerné, bah, c'est Bruno Retailleau, mais on va en reparler dans l'article suivant. Donc je n'y viens pas pour l'instant. Mais voilà, vraiment, hein, c'est ce phénomène qui est absolument hallucinant, quoi. Et le pouvoir des réseaux sociaux, parce que ça donne une caisse de résonance à quelques réacs du quartier de la Gare du Nord et de l'hôpital Lariboisière, là où est implantée une des deux seules salles qui existent en France.
Et les médias de droite, hein, parce que cet article de Actu.fr, il ne vient pas de nulle part, il vient aussi de, il y a quelques jours avant cet article, il y a eu un article très stigmatisant du Figaro à ce sujet. Et je ne te l'ai pas suggéré, peut-être que tu l'as vu, parce qu'il était absolument immonde. Il y a les médias de droite, et je pense là, je citais le Figaro, mais il y a surtout le travail qui est effectué par les médias de Bolloré, qui est absolument immonde en la matière aussi. Hein.
Et voilà, tout ça, donc réseaux sociaux plus médias ultra-conservateurs qui tiennent vraiment le haut de l'édition actuelle, quoi, de ce qu'on propose de la plupart des médias traditionnels, ça nous donne ce genre d'effet par ricochet, quoi. Ça empêche la mise en place et le développement d'actions qui sont pourtant à la fois reconnues par l'État, soutenues par l'État, financées par l'État, et c'est complètement dingue, quoi, et qui ont fait leurs preuves dans des périodes autrement plus dramatiques sur le plan de la diffusion de virus terriblement destructeurs à l'époque. Enfin bref, c'est complètement dingue.
L'État, et puis scientifiquement prouvé, je te rappelle le rapport de l'INSERM aussi, hein, sur l'efficacité totale de la salle de consommation à Strasbourg.
On y vient, là, on est complètement dans l'hystérie, on y vient. Tu me fais la transition toute trouvée pour l'autre article qu'on voulait vous indiquer ce soir, de la fumée dans le poste. Tu sais très bien de quoi je parle, d'avoue, puisque c'est toi qui me l'as envoyé aussi, cet article. Mais d'abord, je voulais dire aussi que chez ces riverains et riveraines, quand même, on note un truc, c'est que tous se plaignent que ça s'est fait en catimini, qu'on les met devant le fait accompli et tout ça. Peut-être, je sais pas, hein, je suis pas à Bordeaux, je me rends pas bien compte et tout ça. Ce qui est sûr, c'est que depuis, y a une réunion publique qui a été organisée par l'ARS, c'était le 22 novembre dernier, et que tout ça a été abordé logiquement, et que donc maintenant, leurs fantasmes, puisqu'il était question de fantasmes, ont pu être contredits par des gens, par les autorités compétentes. Enfin, voilà, il faut se renseigner. Ouais, tout
ça, quoi. Je serais curieux de savoir le nombre de gens qui sont allés à cette réunion parmi ceux qui se mobilisent contre le carré. Tu vois, à mon avis, c'est très peu.
Alors, la bonne nouvelle, c'est l'autre article qui nous la donne. Donc, c'est un article, en fait, c'est un article du Monde, mais il est pour abonnés. Donc, on vous reporte sur le site internet de Huffington Post en un seul mot, .fr, où vous avez un article accessible gratuitement, publié le 18 novembre dernier, intitulé « Drogue, 2.1 et un S à drogue, de nouvelles salles de shoot », c'est entre guillemets, préconisé par un rapport commandé par l'ancien gouvernement. Et c'est donc ça la bonne nouvelle, c'est pas l'INSERM cette fois-ci, c'est... C'est l'Inspection Générale des Affaires Sociales, connue sous l'acronyme IGAS, et celle, Inspection Générale de l'Administration, connue sous l'acronyme IGA, qui a rendu son verdict. En fait, bah, en plus, c'est marrant, hein, puisque c'est le gouvernement Attal. Ça date du printemps dernier, la commande aux inspecteurs des Affaires Sociales et de l'Administration, de ce rapport par le gouvernement Attal. Donc, et donc, ce rapport a été publié. Et ce rapport plaide bien pour le maintien, non seulement le maintien, mais l'ouverture également de nouvelles salles de consommation à moindre risque. C'est les recommandations que font les experts à l'origine de la rédaction de ce rapport qui vient d'être publié donc, par l'IGAS et l'IGA. Il appelle à la multiplication et à la pérennisation donc des salles de consommation à moindre risque, nouvellement dénominées HALT Soins Addiction ou HSA. Donc ce rapport, il a été rédigé par l'inspection des affaires sociales et celle de l'administration. C'est pas rien, c'est pas n'importe quoi. C'est pas une autorité scientifique comme l'autre fois avec le rapport de l'INSERM qui arrivait exactement aux mêmes conclusions. Non, mais tout ça, c'est pour disperser les fantasmes de ces braves gens, qu'ils soient riverains, journalistes ou politiciens ou siennes, mais qui lisent les publications officielles sur ce thème, puisqu'elles arrivent toutes, maintenant c'est la deuxième, à la même conclusion. Non seulement c'est pertinent, mais il faut le pérenniser et le multiplier, quoi. Donc, on est super content que ce rapport arrive. Et il mâche pas ses mots, apparemment, ce rapport, puisque dedans, les inspecteurs ont écrit des choses, c'est des choses qu'on trouve entre guillemets dans l'article, comme le fait que, j'ouvre les guillemets, ces salles de consommation à moindre risque souffrent d'un défaut marqué d'acceptabilité sociale par les citadins résidant à proximité des lieux. C'est la première citation qu'on trouve dans l'article. Mais ça n'empêche pas ces braves gens de souhaiter que ce dispositif soit inscrit, nouvelle citation, dans le droit commun, fin de citation, et qu'il ne reste pas au stade de l'expérimentation. Les auteurs du rapport constatent que ces lieux, on ouvre les guillemets, n'engendrent pas de délinquance. C'est pas entre guillemets, mais ils permettent également d'éviter la consommation sur la voie publique et, à nouveau entre guillemets, améliorent la tranquillité publique. C'est-à-dire tout le contraire de ce que dénoncent tous les gens qu'on vient de citer précédemment. Ils précisent que ces espaces ont des bénéfices sur la santé des consommateurs étrices, notamment par le fait qu'il y a moins de risques de faire des overdoses. Ce qui est quand même pas inintéressant comme résultat, nous semble-t-il ici. Ce rapport insiste également, comme nous, sur le nombre très insuffisant de ces salles, alors qu'ils prennent l'exemple de Berlin où il en existe 7. Voilà, en France, c'est la suite de l'article et moi-même qui le précise, il n'en existe que 2, une à Paris et à Strasbourg. Simplement à titre expérimental, cette expérience dure depuis 2016 quand même, s'il vous plaît, malgré donc tous les observations positives et les rapports positifs qui ont pu être publiés depuis. On doit ça à Marisol Touraine, c'était donc à l'époque où Hollande était président, elle était elle ministre de la Santé. Le rapport préconise, et on rouvre les guillemets, de mener à son terme l'expérimentation en cours. Bah ouais, depuis 2016, ça fait 8 ans d'expérimentation, bientôt 9. Il serait peut-être temps d'arriver au bout et de tirer les conclusions qui s'imposent de cette expérimentation. Et donc, la fermeture des 2 AHSA, c'est toujours entre guillemets dans l'article, c'est écrit noir sur blanc dans le rapport. La fermeture des 2 AHSA dégraderait la tranquillité publique, mettrait en danger des usagers aux conditions de vie très précaires et mobiliserait inutilement des forces de police pour gérer les consommations rendues à l'état, rendues à l'espace public. Voilà ce qu'on peut dire à ces gens, c'est écrit noir sur blanc dans un second rapport officiel. Ils s'inquiètent aussi, en tout cas ils interpellent, dit l'article, les pouvoirs publics sur leur manque de volonté pour porter cette politique de santé publique. 2, ouvrez les guillemets, la politique publique de réduction des risques, dont les HALT soins addiction sont partie intégrante, doit bénéficier d'un portage assumé et univoque à tous les niveaux. Bah ouais, effectivement, fin de citation, pardon, effectivement, il est courageux ce rapport et il dit ce qu'il faut dire, noir sur blanc, sans détour, et ça on peut que le saluer, et ça arrive à un moment particulièrement intéressant, puisque ça c'est la fin de l'article qui nous le rappelle, c'est dit ainsi, de quoi faire tousser Bruno Retailleau qui est opposé à ces espaces, et les rédacteurs de l'article de rappeler sa dernière citation sur ce thème, je vous la donne moi aussi, les salles de shoot créent plus de problèmes qu'elle n'en règle. Voilà, citation de Bruno Retailleau, une de celles qui a dû faire bondir notre ami Bertrand Lebeau, lui faire prendre la plume, on vous rappelle, puisque c'est en lien direct aussi avec tout ça, la prise de position et de parole qu'on vous relayait tout à l'heure de Bertrand Lebeau. Il le fait lui-même dans sa tribune, donc lisez-la in extenso, contrairement à ce que j'ai fait tout à l'heure, et vous aurez aussi un petit peu plus de grain à moudre par rapport à cette affaire des HALT soins addiction, anciennement appelée salle de consommation à moindre risque, et non pas, salle de shoot, qu'on défend et qu'on continuera à défendre dans Il y a de la fumée dans le poste, tel que le fait ce rapport officiel de l'IGAS et de l'IGA. Tel que le fait également, très bien, et ça je l'avais déjà dit, c'est pas une nouveauté, c'est pas réellement de l'actualité, mais si quand même, parce que c'est toujours disponible en librairie, vous pouvez le trouver. La bande dessinée que je vous indiquais il y a quelques temps lors de sa parution dédiée exactement à cette question, un reportage bande dessinée au sein de la salle de consommation à moindre risque et autour, en bande dessinée, donc un reportage, ça s'appelle À moindre risque et c'est sous-titré Immersion en salle de shoot barré, remplacé par conso. Cette BD, elle est très bonne. Je vous l'avais annoncé un peu à l'aveugle, hein, c'est-à-dire que j'avais pas pu la lire encore à l'époque. Bah, ça y est, je l'ai lu, je viens de la finir, elle est vraiment excellente. Donc, un grand coup de chapeau et un grand salut à toi, Matt Lett, l'auteur de cette BD, qui est sortie il y a quelques temps chez l'éditeur appelé La Boîte à Bulles, avec la complicité de Médecins du Monde et de Gaïa. Non seulement sur le plan informatif et donc militant pour la salle de conso, elle est vraiment parfaitement réussie, elle atteint tous ses buts, cette BD À moindre risque, mais en plus elle est faite avec grand grand style, donc encore une fois bravo à toi Matt, c'est vraiment vraiment chouette, on est très content de pouvoir réannoncer la parution de cette BD ô combien importante pour pouvoir, et la BD le permet réellement ça, de pouvoir un peu mieux comprendre ce qui se cache derrière la grossièreté de ses opposants et même derrière ce que nous on essaye péniblement de vous expliquer dans Il y a de la fumée dans le poste et tout ça, bah, je trouve que la BD est vraiment un très très bon média pour pouvoir plus directement, plus concrètement et plus globalement se rendre compte de ce que c'est réellement pour battre en brèche tous les poncifs, tous les stéréotypes et toutes les idées reçues dans ce domaine-là qui pourrissent la vie des acteurs et actrices de la prévention et de la réduction des risques, dont l'action est ô combien bénéfique et donc ô combien nécessaire à des populations de plus en plus nombreuses, très précarisées et dont la santé est mise gravement en péril à la fois par la situation économique et sociale globale occidentale actuelle, mais encore plus par l'action néfaste et hostile de tout un tas de gouvernants, gouvernantes, décideurs et décideuses, mais aussi de relais de toutes ces idées réactionnaires. Voilà, notre page sur les salles de conso à moindre risque, un petit peu longue, mais c'était important, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas fait. Salut encore à toi Matt, merci, parce que je l'ai rencontré en plus l'auteur, il est vraiment super sympa. J'espère pouvoir vous proposer son intervention directe dans Il y a de la fumée dans le poste, au micro de Radio Libertaire, assez prochainement. Voilà, allez, on repart faire un autre tour en musique, peut-être le dernier pour ce soir. Et pour vous annoncer l'autre nouveauté musicale, elle est plus récente, même si j'ai pris du retard aussi, c'est au mois d'octobre qu'est sorti le dernier album d'un groupe qui nous soutient, un groupe dont on est proche, dont on est copain, je crois pouvoir dire directement. C'est Lofofora, bah oui, forcément, avec un nom pareil. Hein. Vous pensez bien que ça fait longtemps que Lofofora s'est coquiné avec les affreux et affreuses activistes du cirque que nous représentons au micro de Radio Libertaire. Ils ont soutenu à multiples reprises l'action du cirque par le passé, et il n'y a encore pas si longtemps que ça. Tout comme ils ont soutenu par le passé aussi l'action ou les actions de la Fédération anarchiste. Et donc, on continue de les soutenir aussi sur le plan musical, avec la sortie de leur nouvel album, très, très agréable, très réussi, il s'appelle Cœur de Cible. Et je vous propose le morceau d'ouverture pour découvrir ce nouvel album de Lofofora, ça s'appelle Apocalypse. Tout de suite dans Il y a de la fumée dans le poste.
Tellement morose, je n'habiterai pas djihad prépare la revanche en Irak. Pendant que toi sur ton portable tu tapes gang bang avec les Jacques. 50 degrés à l'ombre, c'est comment qu'on va faire avec. Plus de 100 femmes cette année vont se faire buter par leurs mecs. Les flics protègent le fric, il y a du sang sur la matraque. Devant ceux qui n'ont rien à perdre, les autres deviennent paranoïaques. Parle-moi d'autre chose, qu'est-ce que tu crois? Si c'est pour rien si le monde est pourri. T'es tellement morose, je t'inviterai pas à ma soirée d'apocalypse. Les oiseaux disparaissent, les virus prolifèrent. La jeunesse en détresse, les vieux sur des civières. Je vois bien qu'on s'enfonce sous la poussière. L'engrenage nous oppresse devant les conséquences de nos choix. Suicidaire, ça part dans tous les sens. Dis pas que le temps presse quand y'a plus rien.
Le Fofora dans Y'a de la fumée dans le poste pour le lancement de leur nouvel album. Il est sorti au mois d'octobre chez Atome, leur label habituel ces derniers temps. Il s'appelle Cœur de Cible. Le morceau que vous venez d'entendre, c'était Apocalypse. Bien sûr, la douce voix de Renaud vous l'a assez braillé dans les oreilles. Un nouveau Le Fofora et un concert très bientôt, le samedi qui précède notre prochaine édition d'Y'a de la fumée dans le poste. Nous, on sera là le dimanche 15 décembre en direct sur Radio Libertaire, comme d'habitude, mais la veille au Trabendo. Il y aura Le Fofora qui viendra vous jouer des extraits de cet album, c'est sûr, et sans doute au-delà. Le Fofora au Trabendo, samedi 14 décembre prochain, et dans les bacs, avec ce Cœur de Cible qui vient de sortir. On les salue, nos amis de Le Fofora, et on les big up pour ce nouvel album une fois de plus. Ça serait chouette aussi de pouvoir refaire un peu de radio avec eux, comme on avait pu le faire il y a quelques années pour la sortie de la... C'est pas leur avant-dernier album, c'était celui encore avant, si j'ai bonne mémoire. Qui s'appelait Simple Appareil il y a quelques années. Vous trouvez ça encore disponible sur le blog de l'émission, lafumedanleposte.blogspot.com, lafumedanleposte en un seul mot, .blogspot.com. Vous pouvez télécharger et réécouter tranquillement toutes les éditions d'Y a de la fumée dans le poste depuis plus de 6 ans maintenant, et vous trouverez donc celle avec nos amis Renaud... Ah, Phil, merci. Le bassiste historique, tous les deux, les historiques de Le Fofora, qui nous avait fait l'amitié de venir en plateau et en direct sur Radio Libertaire il y a quelques années. Renaud et Phil, on vous big up. Et celle aussi où moi j'étais parti à la rencontre du groupe Madame Robert, qui a lui aussi sorti un nouvel album il y a un petit peu plus longtemps, il y a quelques mois. C'est pas Blanche-Neige ni Cendrillon, le nouveau Madame Robert sur le même label At Home. Voilà pour le copinage de Y'a de la fumée dans le poste de ce soir. Allez, on termine avec notre page internationale. Deux destinations ce soir. La première est l'occasion d'une mauvaise nouvelle. Ça se crispe au Luxembourg. On avait déjà eu l'occasion d'évoquer cet aspect-là. Hein. Le Luxembourg qui a légalisé le cannabis quand même. Hein. C'est pourtant ce qu'on peut encore dire. Pour le cannabis thérapeutique, ça fait déjà un petit moment que c'était commencé. Ça s'était ouvert en 2012. C'est rappelé en début d'article que j'ai sous les yeux, celui que je vais évoquer maintenant, et que Davou a trouvé sur le site luxembourgeois le quotidien.lu, hein, c'est un journal luxembourgeois, Le Quotidien. L'article a été écrit par David Marquez et intitulé « L'usage du cannabis médical va être restreint ». Et c'est donc ça la mauvaise nouvelle. Hein. Dans un pays qui a été un des premiers de ce côté-là de l'Europe de l'Ouest à aller aussi loin dans l'ouverture au cannabis, et notamment dans son aspect thérapeutique et médical. Là, on est en train d'assister à quand même un sacré recul. Il n'y a pas que moi qui le dis, vous allez le voir, et donc... alors qu'il est légal de faire pousser du cannabis dans les foyers luxembourgeois, hein, je crois que c'est jusqu'à 4 pieds, oui c'est ça, l'article le rappelle également, jusqu'à 4 plants de cannabis à usage strictement personnel et récréatif, ça c'est possible au Luxembourg actuellement. Par contre, le gouvernement, lui, s'apprête à restreindre l'accès au cannabis thérapeutique. C'est une députée qui vient d'un parti qui doit être le parti des Verts, en luxembourgeois Die Grünen, ça doit être les écologistes, elle s'appelle Duna Bernard, qui dénonce cet état de fait. Elle est citée dans l'article, j'ouvre les guillemets, donc il s'agit d'un pas en arrière frappant qui remet en question tous les acquis en matière de politique liée à la légalisation du cannabis. Bah oui, effectivement, elle a raison, cette députée verte, puisque c'est Martine Deprez, la ministre de la santé actuelle luxembourgeoise, qui porte cette initiative. Et en fait, c'est dit en plus en fin d'article, hein, on peut lire: au départ, la division de la pharmacie de la direction de la santé a proposé de suivre l'exemple de la France, qui va interdire dans son intégralité l'usage de cannabis médicinal à fleurs séchées. Et donc voilà, c'est avec le vent réactionnaire, ou tout du moins très conservateur, qui souffle, y compris dans les pays qui ne se sont pas encore officiellement donnés à l'extrême droite, comme c'est le cas au Luxembourg ou en France, on en est là également. C'est-à-dire que les autorités, d'une certaine façon, anticipent le virage ultra-réactionnaire et recule par rapport aux acquis qui étaient tout à fait officiellement rentrés dans la société luxembourgeoise. À travers le modèle français, à travers la caricature du discours français, au travers de cette expérimentation du médical et la façon dont ça s'est passé, ça, je dénonçais ça encore une fois tout à l'heure, je n'y reviens pas, on en arrive à avoir des pays qui avaient légalisé la fleur de cannabis, en tout cas son usage médical, et qui revient en arrière. C'est ce qu'a annoncé effectivement la ministre de la Santé. Y compris, alors pour l'instant c'est pour les herbes riches en CBD, en THC, mais il semble que le cannabis médicinal à CBD devrait aussi être interdit. En tout cas, c'est ce que dit l'article. Il resterait donc pour les patients luxembourgeois que les autres formes galéniques, les extraits de cannabis, c'est-à-dire l'huile essentiellement, ou ce genre de choses, qui, elles, pourraient, semble-t-il, continuer à contenir du THC ou du CBD. Alors, bien sûr, les raisons, on les devine, hein, on n'avait pas besoin de lire l'article, mais c'est confirmé, hein, plusieurs raisons, notamment en 2022, un rapport d'évaluation qui avait montré que des abus qualifié dans l'article de ponctuel avec les prescriptions était à constater. Il y avait eu des abus ponctuels. Ça paraît un peu inévitable. La députée verte réagit ainsi, entre guillemets, dans l'article. Il faudrait plutôt agir à ce niveau. Nous ne remettons pas en cause non plus le principe des congés maladie, même s'il existe des abus ponctuels. Ah oui, effectivement, des gens ont abusé de leur prescription de cannabis, comme des gens abusent de leur arrêt maladie, et pourtant, on n'annule pas pour autant ce droit-là dans son ensemble. La comparaison n'est pas idiote. La ministre, elle est citée également. Elle nous dit que Tremblay, amateur amatrice de cannabis, j'ouvre les guillemets, une importante consommation de cannabis peut constituer de grands dangers. De plus, aucune conclusion médicale ne prouve l'efficacité de ce traitement. Le dosage et l'administration s'avèrent également difficiles. Ben voilà, elle a pris exactement le discours du ministère de l'Intérieur français, qui est effectivement une autorité en matière de santé et de santé publique, hein, ministère de l'Intérieur, des flics, quoi. C'est le discours flicardier français qui régit jusqu'au Luxembourg l'orientation que prend la politique de distribution de traitements à base de cannabis au Luxembourg, territoire où on l'avait légalisé. Je sais pas quoi dire, moi. Je sais vraiment pas quoi dire. Bon, à la fin, on a cette division de la pharmacie, de la santé, de la direction de la santé luxembourgeoise, qui disent qui dit que, c'est entre guillemets, nous avons repris contact avec tous les acteurs concernés et décidé de laisser une phase de transition en 2025. Avec, c'est pas entre guillemets, mais c'est une précision de la ministre, que les objectifs seraient d'évaluer les besoins et d'adapter le programme en fonction de ces besoins. Donc elle ferme peut-être pas complètement la porte, mais pour l'instant on s'amène vers la fin de la distribution d'herbes, y compris à simple CBD, au Luxembourg, pour usage médical. C'est... Voilà. Bon, bref, la députée, elle, a soulevé d'autres questions qui restent sans réponse de la part du ministère de la Justice dans le cadre de cet arrêt de distribution des fleurs de cannabis à usage médical, notamment comment seront pris en compte les patients concernés, est-ce que les médecins traitants avaient été consultés dans cette décision, et que va-t-il advenir des patients pour qui les autres formes galéniques ne conviennent pas, ceux qui ne peuvent pas se satisfaire de l'huile de cannabis. Question tout à fait pertinente. À noter en toute fin d'article que le projet de culture étatique de cannabis médical semble, lui, complètement, définitivement mort à travers les nouvelles orientations prises par le ministère de la Santé. Voilà, et tout ça vient d'une coalition de gouvernement conclue entre le CSV et le DP, hein, les partis luxembourgeois, donc responsables de ce virage très conservateur, esprit très caricatural des prohibitionnistes de chez nous, de la politique de distribution de cannabis médical au Luxembourg. C'est une très très mauvaise nouvelle. Pour la bonne nouvelle, il faut aller beaucoup plus à l'est, il faut aller aussi dans les pages de newsweek.fr, donc encore la prose d'Aurélien Bernard, un article publié le 21 novembre dernier, et ça s'appelle « Le gouvernement tchèque légalise la culture de trois plantes de cannabis ». C'est donc la bonne nouvelle conclusive de cette fumée dans le poste de ce soir. Elle est fort bonne, même si on ne peut pas encore, comme l'explique très bien, lisez-le l'article si vous voulez tous les détails, d'Aurélien Bernard, on ne peut pas encore se réjouir, c'est pour ça que je ne sors pas mon adjectif d'historique ce soir, se réjouir d'une légalisation réelle en République tchèque, mais on s'en rapproche quand même fortement, puisque l'article d'Aurélien Bernard nous apprend que le gouvernement tchèque a non pas approuvé un projet, mais a signé des amendements révisant le code pénal. Hein, c'est dans le cadre d'une vaste réforme du code pénal, du droit pénal tchèque, que le gouvernement tchèque a pris ces mesures. Donc des amendements qui visent à réduire la charge du système judiciaire, tout en reflétant un changement d'aptitude de la société tchèque à l'égard du cannabis. Ces amendements vont donc instituer des changements qui sont déjà acceptés. Ces changements sont les suivants: la possibilité de la culture de 3 plants de cannabis au maximum, la possession d'un maximum de 50 grammes de cannabis à son domicile et de 25 grammes à l'extérieur de son domicile, et le fait que la culture de 4 à 5 plants, donc au-delà des 3 plants légaux, mais pas trop au-delà, ça sera une simple infraction mineure, alors que plus de 5 plans, ça continuera à être passible de sanctions pénales. En fait, c'est parce que tout ça, ça se passe dans le cadre donc d'une réforme du droit pénal tchèque qui vise à une refonte, hein, dit l'article, qui vise à modifier tout ça en favorisant le traitement des infractions mineures par des peines, soit des peines alternatives, soit de justice réparatrice. Et donc ça implique, dans l'esprit tchèque actuel, de sortir les délits liés au cannabis du champ judiciaire pour les mettre dans le champ plus réglementaire, passible de simples amendes. C'est ce que vous explique plus en détail Aurélien Bernard. Ça donne donc les avancées que je viens de vous décrire. L'opposition s'est fait entendre, hein, quand même, et notamment par la voix du Parti Pirate et d'un de ses responsables. Mais il a critiqué, il a fait une critique fort pertinente, le Parti Pirate, et c'est pour ça que je vous la donne. C'est qu'il trouve ça idiot, qu'il appelle ça un paradoxe. Ah, c'est Yvan Bartos qui souligne ce paradoxe, qui, dans cette législation-là, donc, on autorise la culture, mais on limite la possession à une quantité tellement faible que on peut l'obtenir avec un seul de ces trois pieds dont la culture est légale. Bah ouais, 50 grammes de stock à la maison, effectivement, un seul pied peut vous en donner beaucoup plus. Donc c'est un petit peu problématique. En fait, ce que dénonce le parti pirate, c'est que c'est pas pragmatique, quoi. Que ce seuil de 50 grammes légal de stock à domicile est ridicule par rapport aux quantités qu'on peut produire avec 4 pieds, avec même seulement 3 pieds à la maison. Et c'est pas cohérent du tout, ils ont raison. Ils proposent de pousser ça. Ils projettent d'ailleurs de proposer un amendement qui pousserait cette limite à 900 grammes. Ce qui est beaucoup plus cohérent, effectivement, ils ont raison, au parti pirate. Bon, on voit que le législateur tchèque, lui, a été... beaucoup plus prudent sur le plan de la bonne morale en s'arrêtant à 50 grammes, mais c'est vrai que c'est pas incohérent. Voilà. Alors Aurélien Bernard conclut toute la dernière partie de son article est dédiée au fait que ce que je disais en introduction, hein, que c'est pas non plus une légalisation totale. Lui, il nous dit donc que le gouvernement n'a pas réussi à soutenir un marché réglementé du cannabis. Ouais, périphrase très tordue pour nous dire. Donc c'est pas encore vraiment légalisé le cannabis là-bas. Mais il dit que quand même une étude récente menée par des chercheurs de la faculté d'économie et d'entreprise de l'université de Prague suggère que la République tchèque, si elle légalisait, pourrait obtenir certains avantages économiques substantiels. Puisque cette étude estime qu'un marché réglementé complet du cannabis en Tchéquie, c'est-à-dire autoculture, club de cannabis et vente commerciale, serait à même de générer des bénéfices sociaux nets de 5,5 millions de couronnes tchèques, ce qui vous donne, tenez-vous bien, 218 millions d'euros par an. Et donc Aurélien Bernard semble nous dire que le gouvernement tchèque ne restera pas sourd à cette manne financière que propose donc cette étude de la fac d'économie de l'université de Prague et qu'il semble motivé pour aller jusqu'au bout de la légalisation. On verra. En tout cas, c'est ce qu'a prévu ce gouvernement. C'est précisé en conclusion de l'article, avec comme délai la fin de son mandat actuel. C'est ce qu'on espère voir effectivement. En tout cas, si c'est le cas, ça veut dire que ça arrivera quand même relativement bientôt et on sera là, je le pense, je le souhaite, pour pouvoir vous annoncer la vraie bonne nouvelle historique en provenance de République tchèque. Depuis le temps que c'est nos favoris dans nos pronostics à l'échelle européenne du pays qui va légaliser, hein, et même avant l'Allemagne, on avait pronostiqué depuis fort longtemps la République tchèque. Ils se sont fait doubler par le Luxembourg, les outsiders que personne n'avait venir. L'Allemagne a suivi, mais la République tchèque devrait suivre ensuite. Voilà, allez, c'est l'heure de rendre l'antenne. Je suis tellement à la bourre que j'ai même plus le temps de vous dire qu'il faut soutenir Radio Libertaire, mais si, je vous le dis quand même, même si je ne détaille pas les différents moyens de le faire, il y en a plein, mais vous pouvez le savoir en allant sur le site de Radio Libertaire, radio-libertaire.net, sur le site de la Fédération Anarchiste, fédération-anarchiste.org, ou directement à la librairie du Monde Libertaire, à la librairie Publico, 145 de la rue Amelot, dans le 11e arrondissement de Paris, et donc c'est très important de soutenir Radio Libertaire, n'oubliez pas de le faire. Pour le cirque, c'est sur cirque-asso.net, pour Principes Actifs, l'association activiste pour la reconnaissance de l'autoproduction et de la médication du cannabis thérapeutique, c'est principesactifs.org, hein, pour retrouver l'article dont je vous parlais. Tout à l'heure, nous c'est c'est lafumedanleposte.blogspot.com et c'est dans deux semaines sur Radio Libertaire en direct à 18h30. On va se quitter avec un second extrait du tout nouvel album de Lofofora. L'album c'est toujours Cœur de Cible et le morceau c'est La Machette. Tout de suite pour se dire au revoir. La veille au soir de notre prochaine édition de Y'a de la fumée dans le poste, c'est-à-dire le 14 décembre prochain, il y aura Lofofora au Trabendo, on y sera peut-être, je ne peux pas encore vous le dire, mais ce qui est sûr c'est qu'on sera sur Radio Libertaire le lendemain à 18h30 en direct. Allez, bis à toutes, bis à tous, ciao.
gens qui parlent,
pas beaucoup qui écoutent. De loin les sauter du bétail, on en a rien à foutre.
Planquer les défauts et les fautes, tu sais ce que ça nous coûte.
Garder la cote, la tête haute, résister à la foudre.
Alors devant les incertains lendemains qu'on redoute,
comment faire pour kiffer nos vies quand le monde nous dégoûte?
J'aimerais éviter la redite, mais le quotidien radote.
C'est toujours le mépris, le bâton, la carotte.
J'suis encore fâché.
La misère, la crise et la dette, ça fait monter les enchères.
Avant de me cracher,
j'aimerais trancher à la machette les privilégiés, les frontières.
J'suis encore fâché.
J'avais besoin de Dieu d'une mène sur l'autoroute de l'enfer.
Avant de me cracher,
j'irai me retourner la tête pour voir le monde à l'envers.
Gouverné par des rentiers, donc c'est les mérites.
Dans la galère, les ratés, chercher le mérite.
On nous dit que les vrais méchants opèrent en bande et vendus.
Il y a moins de bandits en banlieue que sur les bancs de la République.
La politique, c'est que de la com,
ça n'étonne plus personne.
Dans les campagnes et les cités,
ça bute et ça bastonne.
Le racisme et les pesticides,
c'est ça qui empoisonne.
Si on ressent la guillotine,
faudra pas qu'ils s'y donnent.
Certains me voient trop radical, les autres me trouveront ridicule. En révolte depuis l'école et jamais de ceux qui reculent.
J'suis encore fâché.
La misère, la crise et la peine, ça fait monter les enchères.
Avant de cracher,
j'aimerais trancher à la marchette les privilégiés des frontières.
J'suis encore fâché.
Jamais besoin de Dieu d'y mettre sur l'autoroute de l'enfer.
Avant de cracher,
j'irai me retourner la tête pour voir le monde à l'envers.
Rhétorique affûtée, ajustée à la cible.
La parole est d'argent, les arguments solides.
L'ennemi désigné, tout le monde se passe en crible.
Sans trahir le respect pour celui qui opprime.
Certains me voient trop radical,
les autres me trouveront ridicule.
En révolte depuis l'école et jamais de ceux qui reculent.